Bonjour, c'est Denis Arcand, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Est-il abusif de parler de Karl Lagerfeld comme d'un possible pape de la pop culture, mort le jour de la sortie de Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon, qui n'encourage pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à rentrer dans une église de crainte de lui donner l'idée d'en faire autant. Non, ce n'est pas abusif, mais on ne s'y risquera pas. D'autant plus que le grand Karl était déjà surnommé le Kaiser et qu'on n'a jamais vu un Kaiser devenir pape, ni un pape devenir Kaiser. Étrange surnom d'ailleurs, quand on y pense, qu'on associe plus volontiers au casque à pointe et à la moustache conquérante qu'à une vie passée dans les jupons de la modernité, une vie où une créativité stupéfiante le disputait à un humour corrosif et vachard, sans parler d'un nez qui lui permettait d'anticiper et de loin toutes les tendances à venir quand ce n'est pas lui qui les crée. Tiens, par exemple, les gilets jaunes. C'est Lagerfeld, le premier, qui en 2008 en enfila un, je parle du gilet, hein, pour une campagne de la sécurité routière avec ce slogan d'une lucidité confondante. Je cite, « C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. » Nous avions lancé une invitation à Karl Lagerfeld pour qu'il vienne nous éclairer de son étourdissante érudition et papoter de cette fameuse pop culture. L'invitation nous est revenue ce matin avec cette mention « Parti, sans laisser d'adresse ».
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Et bonjour Antoine. On part comme ça?
Ben oui.
Comme ça, toute l'émission?
Moi, ça me plaît.
D'accord.
Avec nous tout à l'heure, Noémie Schmidt, l'actrice principale du film Netflix. Paris est à nous. Et avec nous tout de suite, l'auteur de Comme à la guerre. Bonjour Julien Blangras.
Bonjour Antoine et Charline.
Et bienvenue dans Pop, Pop, Pop. Non, je ne veux pas parler comme ça de toute façon. Julien Blangras, ici, il existe une question encore plus anxiogène que la dernière question de qui veut gagner des millions. Et ici, cette question, c'est... Pour vous, Julien Blangras, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses paraclitantes, merfitileuses, curapoupoutantes, faradimensionnées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Philippe Génada, que vous appréciez si mes fiches Bristol sont à jour. Écoutez-le.
Alors, c'est une question difficile. Je sais pas, pour moi, si je réponds comme ça spontanément, c'est de la... La lumière, la légèreté et des trucs graves et tristes en dessous.
Bien. Et pour vous, Julien Blangras?
Magnifique réponse de Philippe Génada. moi, je dirais que c'est ce qui va de Elvis à Beyoncé. C'est tout ce que notre...
C'est large.
Oui, c'est tout ce que notre oui. époque produit et produit de frais, de jeunes, de sexy, de spontané, par opposition à ce qui est institutionnel, académique, un petit peu poussiéreux.
Et musical,
c'est un pic
donc.
De la danse.
Oui. Oui, pour moi, c'est principalement musical, mais évidemment, ça peut inclure la littérature, le cinéma, les séries, enfin, toute la culture, quoi.
Bien. Beyoncé, que nous écouterons d'ailleurs, justement, tout à
parfait.
L'heure. Ah, bah oui, comme ça tombe bien. Julien Blangras, la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le morceau de l'artiste pop qui a trusté les victoires de la musique, Jeanne Haddad, et le morceau, c'est Falling Hearts.
Thank you.
Hearts, Jeanne Haddad, extrait de l'album Radiette. C'est l'album rock de l'année pour les victoires de la musique. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité qui ressemble à un mix entre Baptiste Le Caplain et David Duchovny. Mais qui est ce mélange chelou de pop culture? Réponse avec son pop portrait. Alors, bah, oui, son pop portrait, bah, c'est son portrait, mais... Ouais. Et c'est signé Charline.
Aujourd'hui, nous recevons un aventurier qui défie et déjoue l'image qu'on s'en fait. Jusqu'ici, évidemment, je voyais soit un citoyen du monde en pâte au gaz muni d'une quechua m'expliquant que man, la société, c'est trop Babylone, soit Indiana Jones, soit une chanson d'Indochine, ce qui vous donne une vague idée du nombre d'aventuriers de vrais que j'ai été amené à fréquenter. Notre invité se situe en réalité assez loin de ces trois-là. Il est écrivain voyageur, une double casquette ayant donné naissance à Gringoland, touriste, paradis avant liquidation, Géorama, briser la glace ou encore dans le désert. Si les comptes sont à jour, il a visité 75 pays. Et puis, si pour les comédiennes, on sait que mon plus beau rôle, celui de mère, bah pour les hommes téméraires, la plus grande aventure reste la paternité. Celle de notre invité l'a aussi inspiré, d'abord dans In Utero, puis aujourd'hui dans Comme à la guerre, un roman dont on se dit qu'il est urgent de le distribuer à tous les parents trop angoissés et à ceux aussi qui auraient besoin d'un peu de sourire et d'un bon câlin en ces périodes tourmentées.
Julien Blangras, vous vous voyez comme un citoyen du monde en pâte au gaz ou comme Indiana Jones?
Dans mes rêves, plutôt comme Indiana Jones. Je pensais pas qu'on puisse faire un portrait de moi en citant Indochine. Mais merci pour ce beau portrait. Puis c'est vrai que la plus belle des aventures, c'est la paternité.
C'est la paternité, bien sûr. Okay.
Donc plutôt Indiana Jones, en fait.
Je suis un voyageur.
Vous êtes un aventurier.
Alors, je sais pas si on peut dire que je suis un aventurier, parce qu'effectivement, je voyage dans des contrées qui sont parfois assez exotiques.
L'homme n'a encore jamais mis le pied, comme on disait.
Je ne sais pas exactement ça. Ce que je fais, je pense que n'importe qui d'un peu aguerri peut le faire.
Non, c'est faux.
Bon, d'accord. Alors, c'est vrai, je suis un aventurier. Merci.
Vous êtes un aventurier. Bien, à mon tour de mettre mes pattes au gaz pour aller découvrir votre planète pop. C'est l'heure de votre pop list. Hop. Julien Blangras, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi le roman L'Homme D de Luc Reinhardt, publié pour la première fois en 1971 aux éditions William Morrow. Charline, je ne connais pas l'homme, je ne joue pas au D et je n'ai pas lu ce roman. Que fait-on?
Bah rien, on s'arrête là.
Ah bon?
Non, bon, je plaisante. J'ai des petites explications. Luc Reinhardt est un psychiatre de son état. Il décide un jour d'interroger un dé pour décider de ses actions. Il découvre alors une nouvelle manière de vivre, un peu comme nous à l'heure du déjeuner, Antoine. Quand on décide si salade, si falafel, si pokeball, tout ça en laissant les dés décider.
Les dés décider, d'accord. Julien Blangras, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il
vous plaît,
de L'Homme D?
Venu de la psychiatrie, j'ai pris la passion, tant comme psychiatre que comme homme D, de changer la personnalité humaine. La mienne, celle des autres, de tout le monde, de donner aux hommes le sens de la liberté, de la gaieté, de la joie, de rendre à la vie la même puissance de choc vécu qu'on éprouve en sentant pour la première fois la terre sous ses pieds nus à l'aube et en voyant le soleil éclater à travers les arbres de la montagne comme un éclair horizontal, ou quand une fille tend pour la première fois ses lèvres pour se faire embrasser.
Alors, extrait de L'Homme D, hein, de Luc Reinhardt. C'est pas la première fois qu'on nous en parle dans cette émission.
Ryan Reynolds, l'interprète de Deadpool, nous l'avait cité comme livre culte.
Voilà qui vous fait un point commun avec Ryan Reynolds.
Voilà un gars qui a bon goût.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a ce livre?
C'est un livre qui est absolument fascinant. Comme vous l'avez expliqué, c'est l'histoire d'un psychiatre qui est bien installé dans sa vie, qui décide un jour de confier toutes les décisions de sa vie au dé, ce qui l'amène évidemment dans des aventures rocambolesque, il en vient à créer un culte, à monter une secte. C'est à la fois à mourir de rire et incroyablement intelligent, parce que évidemment, poser la question du hasard, c'est poser la question de l'existence de Dieu, mais tout ça dans une forme éminemment pop, et dans une narration qui est vraiment, vraiment rigolote. Et c'est incroyable parce que ce livre a donné lieu à un culte. Il y a des gens qui se sont inspirés du livre pour eux-mêmes créer des petites communautés où les gens prennent leurs décisions au dé.
Ah oui,
voilà, ça nous en dit quand même long sur le pouvoir de la littérature.
Bien, L'Homme D de Luc Reinhardt. Alors je me permets une question un peu perchée, parce qu'on est quand même sur France Inter, quoi merde. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse phrase de Stéphane Mallarmé, « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ».
Je pense que déjà que c'est une phrase magnifique. J'ai pas de point de vue absolument établi sur la question. Si ce n'est que Mallarmé est quand même un de mes poètes préférés, parce que l'impeccable perfection de sa prose est inégalée.
Bien,
voilà.
Tout se recoupe. Julien Blangras, pour le film, vous avez choisi le Bon, la brute et le truand, on change de registre, hein, de Sergio Leone avec légendaire bande originale d'Ennio Morricone. C'est un film qui est sorti dans les salles obscures françaises en mars 68. Charline, vous qui êtes une fine gâchette oui. Et qui écoutez Dolly Parton en boucle, résumez-nous ce film capital.
L'histoire de trois flingueurs nés qui partent à la recherche d'une cargaison d'or qui a disparu. Ces trois as de la gâchette étant Clint Eastwood, le bon Lee Van Cleef, la brute, et Eli Wallach, le truand.
J'aurais pas vu une moitié de cigare. Un blondin très grand et qui parle peu. J'ai que toi et tu n'as que moi. À deux, vous irez encore plus vite. Creusez. Blondin, j'ai jamais vu un être aussi ignoble que toi.
Le village le plus proche est à 110 km. Si tu économises ton souffle, tu y arriveras facilement.
Que tu économises ton souffle ou non, tu crèveras à tout petit feu.
Sacré blondin. Ça calme un peu en VF, hein.
Je trouve étonnamment que, évidemment, d'habitude, les films en VF, c'est souvent pas terrible. Mais celui-là, peut-être parce que j'ai commencé à le voir enfant en VF, et moi, je suis bien habitué à cette voix-là. Et j'adore quand il dit au début, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2 000 $. Et ce film... Et pour moi, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Alors, au début, je pensais répondre quelque chose un peu plus intello, genre Eisenstein ou Tarkovsky. Mais pour être honnête, ce Sergio Leone-là, je crois qu'il pose les bases du Western Spaghetti. Ouais.
Et c'est celui-là qui reste, plus que les deux autres. Dans l'Ouest ou pour une brine d'or, les autres sont des séquelles.
Et je trouve que ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il est à la fois ironique et épique en même temps. Et il tient un discours aussi sur la guerre et sur l'absurdité de la guerre.
Le bon, la brute et le truand, ça me rappelle une anecdote.
Oh, une anecdote de l'oncle Paul. Bon. Amenez-lui la pipe.
D'accord. Voilà. D'accord, mes enfants. Alors voilà, j'avais demandé aux trois musiciens de ZZ Top lequel était le bon, lequel la brute, lequel le truand. Bah, Billy Gibbons m'avait répondu The good would be the music, the bad, the attitude, and the ugly, the free of us.
Lucide.
C'est amusant,
magnifique.
Bon, ok, d'accord. Julien Blanc-Gras, pour la série, vous avez choisi Friends, la série créée par Martha Kaufman et David Crane et diffusée pour la première fois en septembre 1994 sur la chaîne américaine NBC. Charline, moi, Friends, c'est comme vous avec Game of Thrones, je m'y perds un peu. Rafraîchissez-moi le logiciel.
6 copains de la colocation. Et outre les 6 acteurs principaux, rappelons que quelques guests mémorables sont venus se joindre à la troupe tout au long des 10 saisons. Citons par exemple Suzanne Sarandon, Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Charlie Sheen, George Clooney, Reese Witherspoon, Alec Baldwin, Robin Williams et Billy Crystal, ou encore Winona Ryder.
Petit extrait.
Let's play bamboozled. Chandler, you'll go first. What is the capital of Colombia?
Bogota.
It's Pagoda, but close enough.
Alors, Friends, Julien Blanc-Gras, pourquoi est-ce que ça vous plaît tellement, cette série-là?
Alors, j'avais hésité avec Twin Peaks, dans un tout autre registre. Friends, tout simplement, parce que c'est une madeleine. À chaque fois qu'on tombe dessus, ça fait du bien, en fait. C'est un petit plaisir, un peu coupable, parce que c'est assez simple.
Pourquoi coupable?
Je sais pas, pourquoi pas coupable. Non, les personnages sont tellement bien écrits, les vannes, ça marche à chaque fois. Donc, c'est du sitcom, mais c'est le sitcom parfait.
Ok, donc c'est votre série number one.
Ouais.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui me manque dans ma poplist? Il me manque une chanson, bien sûr. Et votre chanson à vous, c'est celle-ci. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful Boy, Darling Boy de John Lennon, un morceau sur la face B de son album Double Fantasy, sorti en 1980, une chanson adressée évidemment à son fils Sean, et qui rentre tout à fait en écho avec nos propos
c'était
d'aujourd'hui.
Pour faciliter la transition après, vous voyez, je pense à vous. C'est une berceuse que Lennon a écrite pour son fils qui venait de faire un cauchemar, donc je trouve ça absolument mignon. Et puis j'étais obligé de mettre un Beatles quand même dans ma poplist. Pour l'anecdote, je voulais citer dans mon livre quelques paroles, un couplet de cette chanson. Et pour ça, il faut demander l'autorisation aux ayants droit. Voilà.
Les téléphones, ils vous ont dit oui, en revanche.
On s'est renseigné et... Ah oui, non, chut, on leur a pas demandé. Et on a demandé donc à Yoko Ono ou à ses représentants, et il s'avère que c'était beaucoup trop cher pour signer. Voilà, donc merci
donc,
Yoko Ono.
Donc en fait, il n'y a pas d'extrait. Non.
Voilà, il n'y a pas d'extrait. Okay.
Et vous la chantez à l'enfant, donc?
Oui, ça, nous allons parler ça dans m'arrive.
Instant. Oui. Ça vous arrive?
Oui, alors avec en anglais, ouais. Alors ça marche pas forcément bien parce que mon enfant a des problèmes de sommeil. Nous allons peut-être en parler, mais en tout cas, ouais, c'est il vaut mieux que je la lui joue que ouais. Plutôt que je la lui chante.
Non, ouais. Je vais pas vous demander de la chanter. Vous
avez... Oui, bah parce que sinon on risque de perdre beaucoup d'éditeurs. Donc.
Ah bon, pourquoi?
Parce que je chante pas très bien.
Ça donne quoi?
Oh non.
Non. Non, je vais pas vous faire ça. Vous êtes allé voir le film éponyme, La Beautiful Boy, avec Timothée Chalamet. Ça a strictement rien à voir.
Eh bien, non, je ne suis pas allé le voir. Je ne vais pas pouvoir rebondir là-dessus.
Non, allez le voir. Il est recommandé par Pop Pop Pop. Alors, je résume. L'homme des Le Bon, La Brute et le Truand, John Lennon et Friends. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Tu vois,
let's play bamboozled.
Le monde se divise en deux catégories.
Chandler, you'll go first.
Ceux qui ont un pistolet chargé.
What is the capital of Colombia?
Bogota.
It's Bogota, but close enough.
Et ceux qui creusent.
Venu de la psychiatrie, j'ai pris la passion de changer personnalité humaine.
Toi, tu creuses.
C'est un peu ce qu'il y a dans la tête de Julien Blangras, notre invité aujourd'hui, ça, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, tout ça en même temps, ça fait un mix un petit peu confus, mais oui, c'est une petite partie de moi. Oui.
Une petite partie de notre invité. Bien, Julien Blangras, avant de parler de Paris, le lieu de votre livre, le décor de votre Paris, de votre livre comme à la guerre, écoutons le duo NTM à qui nous devons la chanson Paris sous la bombe, sous les bombes.
Stop it, 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 st
NTM dans Pop 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 sur France Inter avec Paris sous les bombes. C'était sur l'album éponyme en 95. Julien Blangras, Charline nous l'a rappelé tout à l'heure. Vous êtes ce qu'on appelle un écrivain voyageur. Vous avez bourlingué sur la terre entière. Et là, vous avez découvert un nouveau continent à explorer, la paternité. C'est l'objet de vos deux derniers ouvrages et le tout dernier a pour titre « Comme à la guerre », publié chez Stock. D'abord, pourquoi ce titre « Comme à la guerre »
Parce que mon fils est né en 2014 et quelques mois après, il y a eu la vague d'attentats qu'on a connue en France. Donc mon fils prononçait ses premiers mots avec avec le mot « guerre » en fond sonore, comme ça, avec cette atmosphère un petit peu morbide. Et moi, la collision de ces deux événements a été la genèse du livre. La question, c'est comment on fait grandir un enfant dans ce monde-là qui est confus, compliqué, un petit peu incertain et anxiogène. Donc voilà, le titre, c'est pour ça. Okay.
Avec Comme à la guerre, vous êtes passé de la théorie, racontée dans votre précédent livre, In Utero, à la pratique. Rétrospectivement, quelle partie
c'est
vous
très
a
différent.
Donné le plus de difficultés?
La pratique, bien évidemment. In Utero, c'était un journal de grossesse tenu par un futur père. Donc, je racontais ce que j'imaginais être la paternité. Est-ce qu'on fait bien de se reproduire dans ce monde-là? Et là, voilà, la pratique, on se rend compte qu'avoir un enfant, c'est encore plus merveilleux que ce qu'on imagine. Et c'est encore plus compliqué aussi.
Un roman qui s'ouvre de la manière suivante. Je vous cite, le jour de la naissance de mon fils, j'ai décidé d'aller bien pour lui, pour nous, pour ne pas encombrer le monde avec un pessimisme de plus. Quelques mois plus tard, des attentats ont endeuillé notre pays, j'en étais à la moitié de ma vie, je venais d'en créer une et la mort rôdait. L'enfant articulait ses premières syllabes avec le mot « guerre » en fond sonore, je n'allais pas laisser l'air du temps polluer mon bonheur. Quel a été donc votre secret pour ne pas vous laisser polluer, écrire ?
Alors, écrire permet de mettre ses idées au clair et de canaliser ses émotions aussi. Et la tonalité de ce livre, j'ai voulu qu'elle soit optimiste. Parce que quand on est parent, on a envie d'être optimiste pour que nos enfants ne grandissent pas dans un monde sinistre. Et donc voilà, c'était aussi l'enquête de ce livre, c'est aller chercher les raisons, aller grappiller de l'optimisme. Et en fait, il y a des raisons assez factuelles qui montrent que le monde ne va pas si mal. Parce que malgré ce que nous montre l'ambiance médiatique, il n'y a jamais eu aussi peu de violence dans le monde. C'est contre-intuitif, mais c'est le cas. L'humanité n'a jamais vécu aussi vieille, aussi bien éduquée, en aussi bonne santé. Donc voilà, il y a des tas de raisons quand même qui nous font penser qu'on ne vit pas dans un monde aussi horrible que ça.
Et vous allez même jusqu'à dire que faire des enfants, c'est un pari optimiste.
Oui, ah, pardon. Oui,
non, cette question était courte.
Vous posez des questions beaucoup trop courtes, enfin Charline.
Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est un pari optimiste et ça donne de l'optimisme même, parce que quand on se reproduit, on se dit que notre mission sur la planète maintenant, c'est de protéger, d'élever cet enfant. Et on se rend compte, à l'usage, que l'enfant vous protège par sa virginité, sa naïveté. Il vous montre des tas de belles choses qui rendent votre propre vie plus harmonieuse. Même si ça se traduit aussi par un manque de sommeil assez compliqué. On en parlera peut-être plus tard.
Il s'agit donc d'une chronique de la paternité au temps du terrorisme, un sujet a priori anxiogène, mais que vous parvenez à rendre à la fois grave et amusant. Le deuxième secret pour ne pas se laisser polluer, c'est l'humour.
Oui, alors l'humour, déjà, c'est une façon de voir le monde, une façon de l'interpréter. C'est un cliché, mais c'est une protection, évidemment. C'est aussi, désormais, c'est un peu dommage d'avoir à lire, mais c'est aussi une posture politique, parce qu'il faut défendre l'humour. On le voit bien avec les histoires de Charlie Hebdo. Et je pense qu'inculquer l'humour à un enfant, c'est pas une mauvaise solution pour le préparer à l'avenir.
Comment on s'y prend ?
On lui fait des blagues pourries.
C'est-à-dire?
Là, j'ai pas d'exemple à vous citer. Mais c'est vrai que c'est pas si facile parce qu'on, je me souviens d'une fois où mon fils m'a dit, papa, raconte-moi une histoire. Et puis, je lui ai raconté une histoire et il m'a répondu, non, mais une histoire drôle, s'il te plaît. Donc voilà, ça nous rend modestes, les enfants aussi.
D'ailleurs, le titre du roman, Comme à la guerre, dans ce titre, le comme a aussi son importance et permet de dévier le récit des rails de la pure tragédie. C'est vrai qu'on rit beaucoup, et notamment dans votre gestion du quotidien avec celui que vous appelez donc l'enfant, entre émerveillement, grosse fatigue, vous le disiez, et inquiétude. Est-ce que c'est un récit du réel ou est-ce un poil romancé, en d'autres termes, invention ou vraie croûte de lait ?
Alors, les croûtes de lait, c'est vrai. Disons que ça a très forte teneur autobiographique. Je pense que tout est vrai à 96% dans ce livre. Il y a quelques passages qui sont un peu romancés pour des histoires de commodité narrative. Mais non, voilà, c'est un roman très proche de ma vie.
Vous écrivez, la paternité, cet aller sans retour est devenu le voyage le plus contraignant et le plus constructif que j'ai entrepris. J'ai gagné en sens ce que j'ai perdu en liberté. C'est un deal raisonnable. Qui avez-vous découvert que vous n'aviez pas appris dans vos voyages précédents ?
Avec la paternité, on n'est plus la personne la plus importante de sa propre existence. Donc, on se focalise pas sur sa propre expérience, mais sur celle d'un autre être qui est votre enfant. Et c'est ça qu'on découvre. Donc, je pense qu'on devient une autre personne, évidemment, quand on est parent.
Vous l'avez dit, l'enfant vous a rendu à la fois plus vulnérable, ça on comprend.
Oui, parce qu'on est inquiet tout le temps,
parents, évidemment, mais aussi plus fort. De quoi ce petit être produisant, je cite, des hectolitres de bave, vous a-t-il protégé?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il nous, en nous apportant une sorte de beauté, d'émerveillement.
En dehors de l'optimisme
quotidien. Ouais. Non, mais ça renouvelle la faculté d'émerveillement. Comme un enfant, quand il est tout petit, il s'émerveille d'un rien du tout. Ça se transmet, l'émerveillement. Et ça, c'est assez précieux. Dans la vie d'un quadragénaire qui pourrait être blasé par la vie, mais non, il faut essayer de rester enthousiaste.
C'est un projet en fait très original, parce que donc il y avait ce premier volume In Utero qui parlait de l'étape de la grossesse, celui-ci Comme à la guerre, c'est les trois premières années d'existence de l'enfant, avec un E majuscule. Vous pourriez très bien continuer jusqu'à sa majorité, par exemple.
Alors, je pourrais, mais j'espère déjà qu'à l'issue de... Quand il lira ce livre, ce qui n'est pas encore le cas, parce que pour l'instant, il a 5 ans, peut-être qu'il décidera de me faire un procès, hein, parce que je m'empare de sa vie pour la raconter.
Oui, mais pour c'est un matériau littéraire aussi.
Oui, mais plus sérieusement, je pense que je vais arrêter après ça, parce que là, c'est un petit enfant, donc il n'y a pas trop d'enjeu dans le fait de raconter sa vie. Si je raconte sa vie d'adolescent, surtout que j'ai un ton surtout... parfois plein de dérision et humoristique, peut-être qu'il m'en voudra un petit peu, parce que je me moque un peu de lui, mais à l'adolescence, c'est pas la même que... Voilà.
Mais peut-être que vous pouvez songer à mêler vos deux types de récits, intime et d'aventure, en racontant l'enfant en voyage, peut-être ça peut vous donner une nouvelle saga.
Faut que je l'amène en voyage, ça peut être marrant. Bonne idée, merci.
Je vous en prie.
Je vous filerai 10%.
Parlez de votre ton, ce ton, cet humour, cette écriture... Ce ton subtilement détaché, en parlant de vous, Philippe Génada, votre fan numéro 1, évoque Desproges. Vous êtes sensible à l'écriture d'un Desproges ?
Oui, c'est une grande influence. Je l'ai lu quand j'étais adolescent, donc je pense que le style de Desproges coule dans mes veines. En tout cas, c'est vraiment une très forte influence, parce qu'il a su mêler la beauté du style et l'ironie, l'humour. Je pense que c'était plus un écrivain drôle qu'un comique lettré.
Oui, en tout cas, c'est un styliste,
évidence. Indéniablement.
Ouais.
Ce que certains pourraient considérer comme la banalité du quotidien, est-ce que vous considérez, vous, que c'est aussi une forme d'aventure ? Toute paternité mise à part ?
Eh bien, il y a quelques années, je vous aurais dit non. Et
ouais.
Maintenant que je suis papa, je me rends compte que oui, le quotidien peut être une aventure, comme le savent tous les parents. Mais c'est un secret qui est assez bien gardé, parce que quand on n'est pas parent, les gens ne vous préviennent pas de tout, en fait, tout ce qui peut être un petit peu...
C'est que du bonheur.
Voilà, ouais. C'est que du bonheur, mais c'est aussi l'abandon de toute forme de dignité. Quand il s'agit de gérer diverses sécrétions du nourrisson, de l'enfant en bas âge.
Y compris sur les pulls.
Voilà, bon, ça fait partie du quotidien.
C'est aussi un livre sur la transmission, celle entre vous et votre fille, c'est parallèlement celle de vos deux grands-pères qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, traumatisme majeur comparé à ceux de notre époque, sans transmettre la moindre trace de haine. Comme si vous aviez cherché à équilibrer une histoire avec l'autre.
Oui, alors... au début, la question du début, c'était comment on vit dans ce monde-là, avec l'atmosphère un petit peu guerrière. Et donc, je me suis rappelé de cette histoire de mes grands-pères. J'ai enquêté sur l'histoire de mes grands-pères qui avaient vécu des choses absolument extraordinaires, à la fois héroïques, traumatisantes et banales.
L'un pendant était prisonnier de guerre,
voilà, et l'autre était résistant. Qui a été blessé et dans la résistance. Et en faisant le récit de vie de mes deux grands-pères et en comparant le passé familial et le présent, ça m'a permis d'avoir une échelle du tragique, qui nous permet aussi de relativiser nos malheurs contemporains.
Et est-ce que ça a été compliqué de mêler récits contemporains et passés, et de réussir à faire sens en termes de structure ?
Ça a été pas mal de cuisine littéraire, oui. J'ai pas mal galéré dans l'articulation du récit, le passage entre le passé et le présent.
Est-ce que le fait de vous être posé, si je puis dire, le temps de deux livres intimes et familiaux, vous donne envie, ou encore plus l'envie, de repartir vers des destinations lointaines, ou au contraire, pas du tout ?
Alors, j'ai toujours envie de voyager. Avant, il m'arrivait de partir sur des périodes assez longues, plusieurs mois. Maintenant, je le fais pas. Je pars maximum quelques semaines parce que j'ai pas envie de revenir un jour à la maison et que mon fils me dise « Bonjour, monsieur ». Voilà, j'ai envie de voir grandir mon fils. Donc, je continue à voyager parce que c'est ce qui me permet de gagner ma vie, accessoirement. Et c'est ce que j'aime. Mais voilà, il faut aussi trouver un équilibre pour être présent en tant que père.
Une question qu'on se pose forcément à l'issue de votre roman, est-ce que l'optimisme, ça s'apprend ?
L'optimisme, ça s'entretient. Je pense. Bon, pour tout vous dire, moi, à la base, je crois que je suis plutôt quelqu'un de... J'ai un fond pessimiste et j'essaye de lutter contre ma nature en permanence. Déjà par politesse, pour pas trop ennuyer les autres autour de moi. Et puis par hygiène personnelle.
Pour résumer, un petit bilan après 3 ans de paternité, satisfait ou remboursé ?
Le problème, c'est qu'on ne peut pas être remboursé. Mais non, évidemment, c'est pour être sérieux 2 secondes, c'est évidemment une grande joie au quotidien d'être père.
Vous êtes l'un des co-créateurs du prix de la page 111, un prix qui permet de juger de la qualité d'un livre par la pertinence de sa page 111. Est-ce que vous pensez que, comme à la guerre, pourrait être un bon lauréat pour ce prix?
Alors, hélas...
Est-ce que vous savez ce que c'est la page 111?
Faisant... j'ai même pas regardé. Faisant partie du jury, je ne peux pas concourir à ce prix formidable. Voilà, qui mélange à la fois le sérieux et l'absurde.
C'est une page de carnet de
votre
grand-père.
Ah, c'est une page
de carnet du grand-père. Ouais. Bon, très bien, vous en sortez pas mal. Julien, Blangras, comme à la guerre, c'est édité chez Stock et c'est un livre pop. Julien Blangras, logiquement, c'est l'heure des pop news, mais aujourd'hui, à la place de ces pop news, nous rediffusons un passage de l'interview de Karl Lagerfeld sur France Inter. C'était le 15 novembre 2014, au micro de Daphné Roulier, oui, c'est ça. Dans la vie est un jeu. C'est une rencontre, c'est un extrait où le créateur revient sur ses débuts chez Balmain et Patou. Écoutez-le.
Je me suis embêté un peu pendant 5 ans, mais j'ai appris beaucoup. Elle m'a appris toutes les techniques du biais et toutes ces techniques des années 20 et 30 qui sont beaucoup plus modernes que des techniques des années 50 qui, pour moi, sont légèrement du ressort du tapissier.
Oui, mais vous êtes tout de même un tout petit peu ingrat avec Pierre Balmain, parce que chez Pierre Balmain, vous avez appris à dessiner et à dessiner presque en 3D.
Oui. Ah oui, oui, mais ça, c'est sûr.
Ce que ne fait plus aucun couturier aujourd'hui.
Non, mais vous savez, aujourd'hui, vous aurez l'inspection du travail sur le dos si vous exploitez des gens de la sorte. Oui. Encore, les gens étaient assez mal payés. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui me donnaient de l'argent. Mmh. Mais je jouais le jeu à fond et je faisais pas le fils à papa qui... Non, et j'ai vraiment appris, vous mettez n'importe quel torchon sur un cintre et je peux vous dessiner ça et je vois ce que ça peut donner une fois sur un corps humain. Je ferme les yeux, je le vois en 3 dimensions et je peux le mettre sur le papier. Ça a quand même un semblant de chic, enfin j'ai la prétention de le croire. Et les premières qui doivent le réaliser peuvent le lire comme une fiche technique, car toutes les proportions, l'esprit et tous les remarques techniques, ils sont... Moi, je suis pas du tout un couturier entre guillemets ou un designer qui drapouille et tout ça, je déteste ça. Moi, ça part d'un dessin, d'un papier. Je vais dans le studio que pour les essayages, mais sinon je travaille chez moi. C'est entièrement conceptuel, une espèce d'image nette et claire que je sais transposer sur le papier sans passer par un computer ni rien. Aujourd'hui, la plupart des jeunes gens utilisent les computers tout pour dessiner. Tout se ressemble. La main se perd. Moi, mes dessins, tout le monde peut les reconnaître de loin parce que j'ai une façon de dessiner qui est comme une écriture.
Pour résumer, Karl Lagerfeld, vous êtes un performeur de la modernité, un homme bionique, adulé comme une rockstar, frivole par profondeur, insatisfait par nature. Vous avancez masqué sur tous les fronts. Vous venez de signer votre 100e collection cette année.
Oui.
Vous êtes bon pour le Guinness Book des records. Vous comptez léguer votre corps à la science?
Oh non, il sera trop usé. Il sera plus utilisable.
Vous avez peur de livrer vos secrets?
Non. Mais moi, je suis pour qu'on brûle, qu'on jette les cendres et qu'on oublie tout. Je déteste les cimetières, je déteste les enterrements. Je voudrais pas embêter les gens avec ça. Ah non, j'aimerais disparaître comme les animaux de la jungle qui disparaissent. Je trouve ça génial. C'est horrible de laisser ses restes.
Karl Lagerfeld, qui nous a quittés aujourd'hui au micro de la merveilleuse Daphné Roulier. C'était sur France Inter le 15 novembre 2014. Voilà. Avant d'accueillir dans... Je vous signale aussi qu'il y aura une rediff ce soir à 21h du grand entretien de François Bunel avec Karl Lagerfeld. Avant d'accueillir dans Pop, la comédienne Noémie Schmidt, écoutons Naughty Boy et Beyoncé avec le morceau Running. C'est un morceau d'une des dernières pubs Chanel avec Kristen Stewart.
The way I feel, the way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go?
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
Running Naughty Boy featuring Beyoncé. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie de Julien Blangras et vient de nous rejoindre la comédienne Noémie Schmitt. Bonjour Noémie Schmitt.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Bienvenue dans ce studio. Noémie Schmitt, on vous a vu entre autres dans la série Versailles. Et aujourd'hui, vous venez présenter Paris est à nous, un film qui sort vendredi sur Netflix. C'est drôle comme expression, qui sort sur Netflix.
Il sera mis en ligne sur Netflix.
Paris est à nous, c'est l'histoire d'Anna qui tombe amoureuse de Greg. Elle décide de rejoindre Greg qui part vivre à Barcelone. Elle rate son vol, l'avion s'écrase. Ce crash évité de peu va éloigner Anna de la réalité, du présent et de Greg, bien sûr. Bande annonce.
C'est fort, non?
De quoi? Nous deux?
J'ai jamais ressenti un truc pareil. Tu penses qu'on sera comment?
Et si on s'en foutait? Même si ce monde est comme un avion qui tombe. Même si l'impact est inévitable. Il y a une urgence à changer ensemble le cours de cette chute. Et si demain tout s'effondre? On gardera le monde en nous.
Alors c'est un film à l'histoire étrange, c'est une histoire d'amour qui a été tournée dans un Paris traumatisé, dans un contexte post-attentat. C'est un film actuel, mais c'est un film qui n'est pas en lien avec l'actualité, c'est ça ?
C'est d'abord le film d'une intuition. Donc on n'a pas voulu coller à l'actualité. On a senti qu'il se passait quelque chose à Paris. Donc nous, c'est une bande de potes qui aimons le cinéma. Et on a senti, ouais, qu'il y avait une tension qui s'emparait de Paris, qu'il y avait quelque chose qui on avait envie de raconter quelque chose là-dessus. Mais on a commencé à tourner en 2014. Ouais. Donc c'était même avant les attentats. Et Paris nous a donné raison parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant 4 ans qui de l'ordre des manifestations contre la loi travail, Nuit debout, la marche pour Charlie, les obsèques de Johnny, même ça allait jusqu'en 2018. Non, c'était en 2017.
2017, oui.
On s'est arrêté en 2017. Et donc...
2014, l'année de naissance de l'enfant avec un grand E. Attendez, on parle de la même chose là avec Julien Blangras. C'est aussi le film d'une génération, une génération de jeunes de moins de 30 ans qui évolue professionnellement, amoureusement et socialement. Dans ce climat de tension, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un film générationnel ?
En tout cas, nous, on est une génération qui avons senti des choses et qui avions envie de parler du fait qu'on était jeunes et qu'on avait une énergie, une envie de faire des choses, une envie de faire des films et qu'on n'avait pas forcément la possibilité parce qu'on n'est pas des gens qui sont connus dans le milieu, on est des personnes, quoi. Et donc, on a voulu quand même raconter cette histoire, raconter quelque chose de ce qu'on ressentait et on l'a fait, du coup, sans autorisation, sans argent, ce qui est un peu symptomatique de notre génération où on est un peu forcé de faire les choses et on peut pas attendre 3 ans d'avoir une aide à l'écriture de scénario, l'aide du CNC, etc. On avait envie de le faire maintenant, tout de suite. Et donc on est sorti dans la rue avec notre caméra et on a fait les choses, avec une espèce d'instinct, d'énergie peut-être de la jeunesse, on va dire.
Alors maintenant, tout de suite, presque à l'arrache, si vous me pardonnez l'expression. Mais du coup, dans un contexte qui était très très tendu. Comment vous vous en êtes débrouillé ? Parce qu'entre les événements que vous avez abordés, les multiples manifestations...
Déjà, on avait une grande confiance entre nous, parce qu'on est des amis qui, on vit ensemble, on travaille ensemble, on s'accorde beaucoup de temps et de réflexion ensemble. Donc on est tout un groupe un peu soudé comme ça, et c'est vrai que quand t'es comédien, c'est tellement rare de pouvoir te sentir entouré comme ça, et d'avoir les mêmes valeurs que les personnes avec qui tu travailles à fond, quoi. Ça aide, et puis on aime bien aussi le fait de mettre notre énergie là-dedans, de se confronter un peu aussi au danger, à des trucs qu'on fait pas tous les jours, et en fait ça rejoint le fait que on travaille tous dans le cinéma. Il y a des trucs dans le cinéma qu'on adore, dans notre métier, mais il y a aussi des trucs qui nous font chier. Et on avait envie de cette liberté et de cette mise en danger, de cet inconnu. Et c'est ça qu'on a voulu tester aussi et expérimenter. C'est pour ça que je dis souvent c'est un film vraiment expérimental, dans le sens où on s'est laissé la possibilité de se planter, de faire des trucs qui marchaient pas.
Mais vu le contexte, vous auriez presque pu continuer encore. Je sais, il faut savoir arrêter un film à un moment, mais il n'y a pas de frustration de se dire on aurait pu encore tourner
Non, on est plutôt...
Quelques mois après.
En fait, on est plutôt soulagés là maintenant et super heureux que le film aboutisse. Et on a envie de faire différemment, peut-être, on espère de faire mieux, de faire autre chose, quoi. Et c'est vrai que la crise sociale qui se passe aujourd'hui à Paris, c'est plus, on se dit plus, on a eu cette intuition et on a voulu raconter ça. Et maintenant, en fait, c'est d'ailleurs assez marrant parce que le film, à la base, il s'appelait Paris est une fête. Et vu le contexte social, on trouve que c'est presque trop ironique maintenant de cette espèce de phrase qu'on a eue beaucoup après les attentats. C'est pour ça qu'on l'a appelé Paris est à nous, parce que ça collait plus à ce contexte tellement trash de la rue en ce moment. C'est s'emparer de la rue, s'emparer de la ville, s'emparer aussi de nos vies à nous. On parlait de génération, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire avec nos vies, quoi? Qu'est-ce que...
Là en ce moment, c'est Paris à qui on fait sa fête. La vraie histoire de Paris est à nous, c'est également l'histoire du making-of du film qui a commencé sur les réseaux sociaux avec ça.
Au cinéma, pour reproduire la vie réelle, il faut des moyens incroyables. Nous, au contraire, on a pensé que ce qui serait incroyable, c'est d'amener le cinéma dans la vie réelle. On n'avait pas de moyens, alors on a cherché le plus petit dispositif possible pour se fondre dans la ville. Au lieu de reproduire la réalité, on a essayé de complètement l'intégrer.
Ça veut dire aussi qu'on a accepté de ne pas contrôler ce qui se passait autour de la caméra. Et on a cherché à être dans des endroits où il se passait des choses. Dans un film traditionnel, tous ces gens qu'on a autour de nous auraient été des figurants, alors qu'avec ce dispositif, tout peut arriver. Le réel vient complètement balayer la fiction. C'est comme ça qu'on peut faire ressentir le vertige psychologique, l'angoisse et la paranoïa de mon personnage.
Alors ce teaser qui a été vu 4 millions de fois et relayé par des milliers d'internautes a permis au film de se faire grâce à un crowdfunding et une récolte de fonds de 90 000 euros. De la campagne de financement au diffuseur, rien n'a été classique en fait dans le parcours de ce film.
Ah non, c'est clair. Et en plus, surtout, on s'y attendait vraiment pas du tout parce que nous, ça faisait 4 ans qu'on tournait, on n'avait pas d'argent, on essayait de solliciter des producteurs, on n'avait pas vraiment d'intérêt, quoi. Et d'un coup, on avait une version de montage qui nous convenait, on était super contents du film et on n'avait pas d'argent pour faire la post-production. Et comme on avait une ambition quand même cinématographique, on voulait une post-prod qui soit classe, quoi. Donc on avait besoin de moyens. Donc on a fait cette petite vidéo en se disant, bon, on va demander 10 000 euros sur une plateforme de crowdfunding. Sauf que en fait, on a eu vraiment, voilà, la vidéo, elle a généré un intérêt chez les jeunes. Je sais pas, alors on n'a pas vraiment analysé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit en disant, mais nous, on trouve pas ce qu'on veut dans le cinéma français actuel. On veut des choses qui nous parlent plus. Ça nous parle vachement, cette espèce de tension dans Paris qu'on ressent aussi, même des gens qui n'habitaient pas Paris. Énormément de gens, même en Suisse, en Belgique, qui nous ont aussi donné de l'argent. Et donc, c'était super inattendu. Avec ces 90 000 euros, on a fait cette post-prod. Et donc, ça nous a permis de ne pas avoir de producteur, de ne pas avoir quelqu'un qui nous dise voilà comment doit se faire le film, voilà, on doit changer ci ou ça. On a fait un film complètement libre. Et à la fin de ça, grâce toujours à cette presse qu'on avait eue, les distributeurs de Paris nous ont appelés pour voir le film. On l'a montré quasiment à l'entièreté des distributeurs de Paris. Et ils nous ont dit ouais, c'est incroyable, mais c'est trop libre. Il faudrait changer le montage. Ils ont été un peu interventionnistes. Et nous, on avait vraiment envie de faire ce film comme on l'avait pensé, quoi. Même si on l'avait pensé pour la salle, donc notre but à la base c'était de le sortir en salle, de le distribuer en salle.
L'important c'est qu'il soit vu.
Voilà. Mais donc on s'est retrouvé avec des distributeurs qui n'étaient pas très très chauds, quoi. Et mais donc Netflix nous a dit nous on achète les droits de diffusion sans toucher au film.
Finalement, en fait, ces événements dramatiques dont on parlait, les attentats, ça a donné à des gens comme vous, qu'ils soient écrivains, journalistes ou artistes, cette envie, ce besoin de réagir, de produire quelque chose.
Ouais, je crois que l'état d'urgence donne une énergie particulière. C'est peut-être ce que vous essayez de retranscrire aussi dans votre film. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le Paris traumatisé, j'ai essayé d'analyser comment les gens réagissaient à ça, comment ça change les interactions entre les gens, comment on réagit à un bruit suspect, etc. Et puis, au fil du temps, Paris, il y a un côté résilient aussi. Les gens s'habituent. On revient pas exactement à la situation d'avant, mais on recommence à vivre à peu près normalement. Même s'il y a toujours des militaires qui patrouillent devant les crèches.
Bon, Paris est à nous, mais Paris est quand même une fête. Allez, ça sort vendredi sur Netflix. C'est un film pop. Noémie Schmitt, Julien Blangras, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Henri, mon cochon, mais ça faisait longtemps. T'as l'air tout excité, dis donc, qu'est-ce qu'il y a, là? Comment ça, tu veux monter dans le studio? Mais tu sais bien que t'as pas le droit, c'est tabou. Quoi? T'as une question à poser? Depuis quand tu veux poser des questions, toi? Bon, enfin, tu veux demander quoi? Tu veux demander à Julien Blangras s'il y a plus de blanc ou plus de gras? Non, mais attends, voilà, tu me déranges pour ça, là. Bon, allez, dégage. Allez, dégage, je te dis.
C'est pas possible, ça. Bon, maintenant que je suis tranquille, je vais pouvoir écouter un vinyle. Tiens, Paris, jadis, c'est parfait, ça, pour terminer cette émission. En plus, c'est avec mon petit Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Oh.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. Onicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi, j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence. Rien ne vaut l'heure de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles. On se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelle, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Pardon. Paris jadis dans Pop 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 sur France Inter.
Les accents, Jean le sifflet, il sait tout faire, les imitations, c'est un délice.
Marielle, Noémie Schmitt, Julien Blangras, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser ici tous les deux, Noémie?
Alors moi, étant donné qu'on a fait un film de cinéma qui sort sur Netflix le jour des Césars, mm-hmm. j'ai envie de vous laisser notre petite statuette que l'on n'aura jamais.
Comment ça? À cause de Netflix? Mais si vous l'aurez votre statuette, ne vous inquiétez pas. Merci Noémie. Et vous Julien?
Moi je vous laisse un petit souvenir et une petite tour Eiffel dans une boule qui se couvre de neige quand, quand on la secoue.
C'est voilà. Gentil. Merci. Et ben, je range ça et je garde ça par deux vers moi. Merci à tous les deux. Merci Noémie Schmitt.
Merci à
vous. Paris est à nous. Ça sort vendredi sur Netflix. Donc bravo pour l'ambition et l'enthousiasme. Merci Julien Blangras. Comme à la guerre, c'est édité chez Stock. Et on vous retrouve le 31 mars prochain au 8e salon du roman historique de Levallois. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Sustain de Fonte, la réalisation, la technique, Johanna
Gabon. Tout seul, je vous laisse tout seul.
Aurélien Esbourg, notre rédacteur en chef, Claire Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, elle. Et oui, Vanessa Paradis sera avec nous. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter, l'émission hein, pas Vanessa Paradis. Et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yup ou une Yupesse à la pointe, suivez-nous plutôt, comme dit Henri à la fin de ses tutos Riette Homemade sur YouTube. abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.